Bonjour et bienvenue à Point de vue, ici Boris Chassagne qui vous accompagne pour cette prochaine demi-heure. Au sommaire aujourd'hui, deux jeunes entrepreneurs tentent de relancer l'industrie cinématographique à Yellowknife et de faire des territoires du Nord-Ouest un mini-Hollywood. Mission impossible, pas pour ce duo de jeunes passionnés qui ont lancé l'incubateur The Artless Collective. Ils répondent aux questions de Thomas Etier. La ville vue du ciel, Edmonton projette de construire une télécabine, sa gondole du ciel. Le projet pourrait voir le jour dès 2025, la gondole qui promet de divertir résidents et touristes de passage.
Il y aura aussi des cabines qui seront complètement transparentes pour avoir la rivière, la vieille centrale électrique, l'architecture d'Edmonton. Donc ça, c'est une expérience. Les stations seront des lieux de vie, des lieux d'histoire, des lieux de communauté, des lieux d'art.
Chanter pour vivre ou vivre pour chanter, Wilbert Chancy, un baryton et enseignant d'origine haïtienne, choisit de faire les deux.
Les amis, les membres de la famille nous ont dit « Mais qu'est-ce que vous faites dans ce pays froid? Est-ce que vous êtes fous? »
Tout ça et plus encore à Point de vue. Vous êtes à l'antenne de Point de vue, une réalisation de l'initiative de journalisme local. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLGI. Alors, on lance l'émission dans le Grand Nord canadien, où un collectif de professionnels du cinéma tente de relancer la production cinématographique dans les territoires du Nord-Ouest. Le défi est immense, tout autant que les territoires de plus d'un million de kilomètres carrés qui s'étend tout au nord du 60e parallèle. Les deux fondateurs du studio et incubateur Artless Collective de Yellowknife ne s'en préoccupent pas une miette. Ils espèrent donner donc un second souffle au 7e art nordique. Le défi est de taille, affirment les fondateurs du collectif, car l'industrie du cinéma dans les territoires du Nord-Ouest est quasi anémique et aurait plafonné d'un point de vue technique. Le Artless Collective pourrait, qui sait, renverser la tendance et intéresser les producteurs de la côte ouest et de Toronto aux paysages et savoir-faire des territoires. Thomas Etier en a discuté avec Jabel Kurt, cofondateur du studio Artless Collective.
Dès janvier 2022, le projet Hyper Arctica Crew Lab, ou HACLAB, réunira une toute nouvelle équipe de 8 techniciens en herbe qui seront affectés à 3 tournages signés, budgétés et rémunérés.
Really, it's a work incubator program.
Dans les prochaines semaines, cet incubateur d'experts, comme le décrivent les instigateurs du projet, Pablo Saravanja et Jay Balkert, produira une publicité, un épisode de série web et un court-métrage. Et comme l'explique Jay Balkert, il ne s'agit pas d'un exercice.
The projects that we're going to be filming are real projects. You know, they have real clients and real budgets. These are projects that Pablo and I, our company, would have done sort of.
Nous avons un budget et des clients, explique Jay Balkert, instigateur du projet HACLAB. Normalement, nous nous occuperions de ces mandats à nous deux, nous embaucherions des techniciens à contrat. Or, nous avons décidé de saisir ces occasions et de répartir les profits dans l'équipe pour commencer à bâtir une expérience de travail. Les deux cinéastes sont présentement en recrutement pour bâtir leur équipe. L'expérience a pour objectif, à terme, de développer les ressources qui, petit à petit, permettront aux créateurs des territoires du Nord-Ouest et d'ailleurs de réaliser leurs ambitions les plus fantastiques, et ce, à partir du studio de Yellowknife.
What we really want is an industry where people are working full-time, 5 days a week, 10-hour days on set, doing whatever the skill is that they're interested in.
Ce qu'on veut, poursuit M. Balkert, c'est une industrie où les gens travaillent à temps plein, 5 jours par semaine avec des journées de tournage de 10 heures, et ce, en pratiquant leur spécialité. À l'heure actuelle, les occasions seraient trop rares au territoire du Nord-Ouest pour permettre de générer l'expérience et l'expertise nécessaires.
You know, if you've worked on something, say you've done sound on a production, a southern production that came up, you know, 3 years ago, and then we need a sound person.
Après une longue période de temps entre deux tournages, le savoir se perd. Si vous n'avez pas eu l'occasion de travailler sur un plateau de tournage en 3 ans, vous manquerez d'expérience pour faire le travail, selon M. Balkert.
People lose their knowledge after, you know, long periods of time like that. So,
c'est que les grosses productions qui proviennent du Sud avec d'imposantes équipes de tournage ne visitent que rarement le Nord. Selon M. Balkert, les territoires du Nord-Ouest ne pourront pas s'y fier pour espérer faire croître leur propre industrie du film.
Those productions happen once every 3 or 4 years. So
ces grosses productions venues des provinces du Sud nous ont appris beaucoup de choses sur le cinéma, convient M. Balkert. Elles sont évidemment plus que les bienvenues. Pourtant, il y a 20 ans que nous attendons que ces productions nous aident à bâtir l'industrie du cinéma et à former nos experts. Ce que nous constatons aujourd'hui, indique-t-il, c'est que ça ne s'est jamais produit.
We need to start somewhere, and the place that we need to start is to create an opportunity for a crew, an actual film crew, to be developed here in the north. And that's where Hack Lab comes into play.
Nous devons commencer quelque part, poursuit Jay Balkert. Nous devons dès maintenant saisir les occasions de mettre en place une véritable équipe de tournage ici même, dans le Nord. Et c'est ici qu'Hack Lab entre en jeu.
Instead of looking at film as something that they do in and around their government job, they can start looking at film as something that they do full-time.
Plutôt que de voir le cinéma comme une chose qu'ils feront en parallèle à un emploi au gouvernement, les techniciens pourront considérer travailler à temps plein dans l'industrie du film. L'équipe d'Hack Lab profitera de la collaboration d'experts de Toronto et de Vancouver qui travaillent eux-mêmes sur des productions hollywoodiennes. Ils observeront virtuellement l'équipe se déployer sur le plateau de tournage de Yellowknife.
Via Zoom, we'll have people we know who work on Hollywood movies down in Vancouver who can watch us on set as we prepare and as we work, and they can give us advice, you know, like, no, that you need to be over there. Your job is to do this, whoever that is.
Nous pourrons poser nos questions à des gens très haut placés dans l'industrie cinématographique, indique Jay Balkert. À l'heure actuelle, le studio Dartless Collective, qui est situé dans la vieille ville, est doté d'un grand écran vert qui permet d'ajouter certains effets spéciaux aux productions. Toutefois, d'ici les 2 prochaines années, Jay Balkert et Pablo Saravanja souhaitent acquérir l'équipement pour se mettre aux productions virtuelles. Une technologie qui, selon eux, devrait éliminer plusieurs obstacles à la création. Cette nouvelle technologie qu'on souhaite incorporer au projet Hyper Arctica pourrait permettre d'éliminer ces barrières. En matière de nouvelles technologies, explique Jay Balkert, le Nord se trouve souvent loin derrière. On veut changer tout ça. On veut que les gens, même de Vancouver, puissent se dire « il y a un studio là-bas avec tout l'équipement nécessaire ». Et si on ne fait rien, conclut le cinéaste, je ne vois pas d'industrie du cinéma dans les 5 prochaines années au territoire du Nord-Ouest.
The North is so desired on camera.
Pourtant, le Nord est très convoité sur caméra, qu'on parle de paysages, d'histoires autochtones. Bref, selon le cinéaste, si tout le monde s'y met, Yellowknife pourrait devenir le mini Hollywood du Nord.
Alors, musique maintenant, on donne une voix au baryton haïtien Wilbert Chancy, qui a tout récemment lancé un album de chants populaires et traditionnels haïtiens. Monsieur Chancy a voulu en fait se faire plaisir avec ce nouveau CD intitulé « Invitation ». Il tenait, dit-il, à léguer à la postérité une part de l'histoire musicale et culturelle d'Haïti. Alors, pour ce disque lancé plus tôt cette année, Wilbert Chancy a fait appel à David Bontemps. David Bontemps est un arrangeur, pianiste et compositeur établi à Montréal. Wilbert Chancy est un retraité de l'enseignement. Il est aussi le frère d'un des fondateurs du célèbre groupe de musique populaire haïtienne Tabou Combo. Les chants qu'il a choisis dans son disque « Invitation » ont bercé son enfance. Ils expriment d'une façon simple et dépouillée les sentiments les plus profonds d'un peuple, explique M. Chancy, qui arrive d'abord à Montréal en 1968. Wilbert Chancy, qui a élu domicile à Québec, va quitter la ville et émigre maintenant vers l'ouest pour prendre racine à Winnipeg, au Manitoba, où il enseigne le français au collège de Saint-Boniface, maintenant le collège Louis Riel, le français et le latin à l'Académie Sainte-Marie. Discussion croisée entre Montréal et Winnipeg avec Wilbert Chancy au micro de notre journaliste Henri Saint-Fleur à Montréal.
Monsieur Wilbert Chancy, bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Bien et vous?
Ça va très bien, merci. Il fait très froid à Winnipeg, mais...
Je connais un petit peu Winnipeg, je n'en doute pas. Mais dites-moi, Et je trouve extrêmement intéressant que pour se faire plaisir, on décide de laisser un legs à la postérité. Avant de parler un peu plus de vous, racontez-nous comment est venue cette idée.
Bien, j'ai œuvré dans la musique pendant plusieurs années. Et comme je me suis rendu compte que la voix était encore là, et je me suis dit, oh, il faut faire quelque chose. Alors, l'idée m'est venue de faire quelque chose sur les chansons haïtiennes. C'est comme ça qu'il y a à peu près 4 ou 5 ans que cette idée m'est venue. Mm-hmm. Et puis, je cherchais quelqu'un pour m'accompagner. Il y avait, je connais un ami qui est musicien ici à Winnipeg, qui joue du piano très, très bien. Mais quand je suis allé à Los Angeles et que j'ai assisté à un récital que donnait David au collège où ma fille Myriam Chancy enseigne, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est ce gars-là qu'il faut qu'il m'accompagne. Alors j'ai fait quelques recherches et puis je me suis rendu compte qu'il avait déjà une grande connaissance de la musique haïtienne. Je lui ai fait un coup de fil et puis il m'a dit, oh, c'est avec plaisir que je ferai ça. Et puis alors on a commencé. Mon idée première, c'était l'accompagnement au piano. Et puis, David m'a dit, tu sais, en entendant le timbre de ta voix et la façon dont tu chantes, il me semble qu'un string quartet, toi, tu l'accordes, serait très bien. Alors, on a commencé à faire des recherches là-dessus. Mm-hmm. Et puis, je suis arrivé finalement à rejoindre des musiciens ici à Winnipeg. Et puis, j'ai trouvé une violoniste qui joue d'ailleurs à la symphonie de Winnipeg, et qui a accepté de réunir un groupe de quatre musiciennes, en fait, parce qu'il y a deux violonistes, une violiste et une violoncelliste. Et puis, je leur ai donné la musique, ça leur a plu, on a fait une répétition, et puis la chose est partie comme ça, et nous voici.
Mais dites-moi, vous dites qu'elles ont aimé ça, comment elles ont réagi face à une musique dont le rythme, le tempo est totalement différent?
Ça m'a vraiment étonné de voir à quel point elles se sont adaptées au genre, à la musique, particulièrement la violoncelliste. Parce que les rythmes n'étaient pas faciles à faire. Et puis, du premier coup, elle a réussi à les faire. En tout cas, elles m'ont adressé leurs commentaires. Ils m'ont dit qu'ils aimaient beaucoup la musique. Et j'ai simplement remarqué qu'elles s'étaient adaptées vraiment très facilement.
Comment êtes-vous venu à la voix comme instrument pour vous exprimer en chant?
Il faut remonter très haut dans la petite enfance, de cette participation que j'ai eue dans des chorales depuis que je suis à l'école primaire. Ensuite, quand j'ai un passé aussi un peu religieux, parce que je suis entré au petit séminaire, et au petit séminaire, on chantait beaucoup des chants grégoriens et des chants du répertoire classique aussi. Et puis, quand j'ai quitté Haïti, quand je suis allé en France, j'ai continué dans cette lancée de musique populaire aussi, mais en fait beaucoup de musique classique. Et c'est ainsi que j'ai pu continuer à utiliser ma voix dans ce sens-là.
Moi, sorti la ville Jacmel, moi, poilé la vallée, les moi, rivé, cafou, bené, Panama, moi, tombé.
Aussi, il m'est arrivé de chanter pour vivre. Il me semble que j'ai aussi vécu pour chanter.
Oui. J'ai toujours suivi, si vous voulez, deux voies. La voie de l'enseignement et la voie de la musique et de la chanson. Il s'est trouvé que quand je suis arrivé au Canada, à un moment donné, ma femme et moi, nous étions professeurs au cégep de Lévis-Lauzon, en face de Québec. Nous enseignions très bien, ça allait très très bien. Et puis, des amis, des membres de la famille nous ont dit, mais qu'est-ce que vous faites dans ce pays froid? Est-ce que vous êtes fous? Revenez donc dans votre pays. Alors, nous deux, on était jeunes, on était jeunes à l'époque. On a fait ni un ni deux, on a donné notre démission. Et puis, on a dit, on retourne en Haïti.
D'accord.
Voilà, ça n'a pas marché. Comme ça ne marche pas pour tout le monde, ça n'a pas marché. Il a fallu donc revenir au Canada, alors que je n'étais même pas encore parti complètement pour Haïti. Je reviens donc au Québec. Je n'ai plus d'emploi dans l'enseignement, puisque j'avais donné ma démission.
Tout à fait.
Il fallait que je vive. Et tout ce que j'avais pour vivre, c'était la voix, c'était ma musique. Et puis, je me suis mis à chanter dans des bars, comment dire, participer à des émissions de radio et de télévision également. Et puis, ça a duré 2 ans. Alors, pendant tout ce temps-là, j'ai chanté effectivement pour vivre. Cette passion de chanter que j'ai en moi, je n'ai jamais pu l'arrêter. Je n'ai jamais pu m'empêcher de chanter. Dès que j'arrive quelque part, je vais vous raconter une petite histoire. J'arrive par exemple dans l'église où j'allais à la messe, et puis j'entends chanter, sans vouloir manquer de modestie, et j'ai trouvé que ce n'était pas tellement bien. Alors je me suis proposé immédiatement, je me suis proposé pour animer une messe. Et puis me voilà en train d'animer une messe tous les samedis où je chante et joue de l'orgue. Et cela a duré 17 ans.
Merci.
C'était Paname Tombé, interprété par le baryton Wilbert Chancy, qui de Winnipeg était au micro d'Henri Saint-Fleur. Vous pouvez d'ailleurs écouter la version complète de cet entretien sur canada-info.ca. Et beaucoup de nouvelles d'un bout à l'autre du pays. On vous en file quelques-unes produites par notre équipe de journalistes francophones et anglophones. En Nouvelle-Écosse, la tendance à la numérisation des stations de radio se multiplie. Le Canada n'y fait pas exception. La radio CFBM sera en ligne le 3 janvier 2022 en direct de Mabou, au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Au programme, musique, actualité et météo, les studios de radio CFBM ont élu domicile dans l'ancien couvent rénové et transformé du campus satellite du collège gaélique de Saint-Anne. Ryan McDonald en assure la direction. La musique est au centre de sa vie depuis qu'il est tout jeune. M. McDonald ne fait pas ses premières armes en radio, car il a aussi travaillé plusieurs années comme animateur à CIGO à Port-Hawkesbury. Il espère créer une communauté d'auditeurs fidèles partout à travers le monde et inciter les gens à découvrir la riche scène musicale du Cap-Breton. Les parcs nationaux albertains de Banff, Jasper, Waterton Lakes, Yoho et Kootenay reçoivent un sérieux coup de pouce du gouvernement fédéral canadien. Ce dernier injecte plus de 14 millions de dollars pour lutter contre les espèces aquatiques envahissantes comme la moule zébrée et la maladie tourbillonnante. Et du côté de Québec, coup de pouce du gouvernement de cette province et à la région de la Haute-Côte-Nord, où le gouvernement de François Legault espère stimuler l'économie et lutter contre la dévitalisation en injectant 4,7 millions de dollars dans le fonds Régions et ruralité. Les municipalités de cette région, qui prend naissance à Tadoussac, demandent aux citoyens de leur soumettre des projets pouvant atteindre les 100 000 $. Avis aux intéressés. On prend maintenant la direction d'Edmonton, où les autorités municipales sont en train de cogiter un projet de télécabine. On devrait, nous, si tout se passe bien, pouvoir s'y suspendre dès 2025. Le projet est baptisé Prairie Sky Gondola, la gondole du ciel des prairies. Mais cette télécabine doit relier sur près de 2,5 km les secteurs du vieux Strathcona et du centre-ville de la capitale albertaine. Chacune des stations aura sa propre identité, personnalité et celle de l'ancienne centrale électrique, accueillera des restaurants, des cafés, des événements. Ce projet sert aussi de prétexte pour mettre en valeur l'histoire et l'art autochtone. La firme Steer Group, un groupe d'experts de renommée mondiale, a été mandaté pour assurer la supervision et la réalisation de ce projet. Et comme nous le dit Claire McDonald, responsable du développement de la Prairie Sky Gondola, le téléphérique sera plus qu'un simple moyen de transport, mais une expérience à vivre. Le reportage de Vincent Savard à Edmonton.
Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un téléphérique, c'est vraiment un moyen de transport en commun pour tout le monde. Ce qui est le cas, c'est un moyen de transport. Mais pour nous, c'est beaucoup plus que ça. En fait, c'est aussi une expérience. C'est un moyen, comme on le voit partout dans le monde, que ce soit à Barcelone, à Porto, au Portugal ou à Londres, mais aussi à Singapour, ou je sais qu'à Seattle aussi, ils essaient d'avoir ça. C'est une expérience, c'est un moyen pour les gens, pour les personnes qui vivent à Edmonton, les gens qui visitent aussi, d'avoir une expérience nouvelle d'une ville. Donc c'est un moyen de transport, mais c'est aussi un endroit où on peut avoir des souvenirs avec notre famille, avec les gens qui rendent visite.
Est-ce que selon vous, les poteaux et les câbles du système de télécabine pourraient causer une sorte de pollution visuelle dans la ville?
Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça et c'est vrai qu'au départ, moi, je ne connaissais pas beaucoup de choses sur les projets de téléphériques urbains. Mais en fait, ce n'est pas du tout la même chose qu'un téléphérique qu'on voit quand on va faire du ski. Une des choses, c'est qu'on n'enlève pas les arbres du tout. On vole à peu près à 2-3 mètres au-dessus des arbres. Mais aussi, les câbles sont très, très petits. Ils sont très, quand on le regarde de loin, on ne les voit pas vraiment. Maintenant, les cabines, alors les gens pensent aux cabines. Mais si vous regardez les photos de partout dans le monde ou sur notre compte d'Instagram, c'est assez petit quand on regarde de loin, c'est au-dessus des arbres. Donc non, il y a beaucoup de gens, on a beaucoup de ponts par exemple, et les gens aiment prendre des photos des ponts. Ça va, moi je dirais que ça augmente les choses qui sont intéressantes. Beaucoup de photographes nous demandent quand est-ce que c'est fini, quand est-ce que c'est fini, on a hâte de pouvoir prendre des photos des cabines, mais aussi de la cabine en elle-même. Ça va rendre, en fait, les gens vont penser à Edmonton et se dire il y a des choses cool qui se passent et on veut en faire partie. Donc non, on ne pense pas que ça va être un problème, c'est plutôt le contraire.
Et si on se projette en 2025, on a ouvert la télécabine, tout ça, et que nous sommes des utilisateurs justement de la télécabine, quel type d'expérience allons-nous vivre à bord de cet engin?
Ah oui, alors on a les télécabines normales avec un fond normal où on voit pas à travers, mais il y aura aussi des cabines très spéciales qui seront complètement transparentes. Moi, j'appelle souvent ça des aquariums, c'est-à-dire que on peut voir en dessous de nos pieds quand on est dessus. Donc, on pourra voir la rivière quand on passe, on pourra voir la vieille centrale électrique, on pourra voir les arbres, l'architecture d'Edmonton. Donc ça, c'est une expérience. Une autre expérience, c'est qu'on aura des événements spéciaux, comme par exemple, si on va à un match de hockey ou si c'est le 1er juillet avec les feux d'artifice, on pourra avoir des dîners de Saint-Valentin. Donc on aura beaucoup de cabines, en fait, des cabines qui seront réservées pour ces événements spéciaux, tout en aussi ayant à pouvoir accès aux cabines pour juste voyager d'un point à l'autre. Donc en fait, il y aura de l'événementiel tout en ayant aussi juste le côté transport.
Justement, en parlant d'événementiel, je sais que vous voulez faire du power plant, là, de l'ancienne usine d'électricité, une salle où on pourra justement avoir des restaurants, des petits commerces et des salles pour des mariages, des événements comme ça. Mais je sais que aussi vous voulez que chacune des 5 stations ait leur propre personnalité. Qu'est-ce qu'il y aura d'une station à l'autre?
Ah oui, c'est très, très important pour nous parce que nous allons être dans des... Comme nous ne sommes pas seulement un moyen de transport, nous sommes aussi un... Nous voulons être comme un centre d'activité, un endroit où les gens aiment vivre. Moi, j'ai immigré de France, ici à Edmonton. J'ai l'habitude de pouvoir m'asseoir à des cafés, de m'asseoir en terrasse, d'être au milieu de plein de gens. Et c'est vrai que c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que les stations, ce n'est pas juste une station pour prendre... le téléphérique, mais c'est aussi des stations, des lieux de vie, des lieux où l'art sera là, des lieux où on pourra connaître un peu mieux de ce que c'est l'environnement, la culture d'un quartier. Donc, par exemple, à Strathcona, sur l'avenue White, c'est l'ancienne ville française, comme nous le savons. Mmh. Avant, c'était la ville française de Strathcona, Edmonton, c'était la ville anglaise au nord. Eh bien, nous voulons pouvoir parler de cet héritage francophone, de la station, mais aussi, et aussi toute l'architecture locale qui étaient les architectes qui fait partie de ce quartier. Pareil pour la centrale électrique, c'était aussi un lieu pendant des millénaires pour les autochtones. Nous voulons pouvoir avoir ce lieu de réconciliation où les autochtones pourront parler de leur histoire, de ce que c'était d'être eux à l'époque, mais aussi quelle est leur vision pour leur vie, pour leur communauté. Mmh. Aujourd'hui, comment ils s'intègrent avec Edmonton. Donc les stations seront des lieux de vie, des lieux d'histoire, des lieux de communauté, des lieux d'art. Et on espère que ce sera comme ça différent pour chaque station.
Et justement, là, vous en avez abordé un petit peu, là, vous voulez justement souhaiter vous réconcilier avec les peuples autochtones. Qu'allez-vous faire pour rendre hommage aux autochtones?
Oui, oui, c'est très important. Nous sommes justement en ce moment en pas un. Nous avons deux comités, un comité d'engagement avec le public, mais aussi un comité très spécifique d'engagement seulement avec les autochtones. La ville d'Edmonton nous a demandé de d'avoir un engagement très particulier et très solide et robuste. Et donc, avec les autochtones, nous parlons justement de ce qu'ils veulent, et surtout autour de Rosedale, ce qu'ils veulent pour cet endroit. Et on nous a beaucoup dit déjà qu'on veut pouvoir avoir des powwows, on veut pouvoir parler de notre histoire, mais ils veulent aussi des logements, ils veulent aussi du boulot. On veut parler de ça, justement, de leur développement économique et de leurs aspirations. Donc, pour l'instant, on est à l'écoute, on écoute, on va voir comment on pourra aider et participer à ça.
C'était Mme Claire McDonald, gérante du développement de projet pour Prairie Skies Gondola. Elle nous a parlé du nouveau projet de télécabine Prairie Sky Gondola à Edmonton. Le projet devrait entrer en fonction d'ici 2025 et reliera le secteur du vieux Strathcona au centre-ville. Merci beaucoup, Mme McDonald, d'avoir pris du temps pour cette entrevue.
Merci.
Eh bien voilà, c'est déjà tout pour nous à Point de vue, une émission produite par l'initiative de journalistes locales et présentée par le Fonds de la radio communautaire du Canada. Découvrez toutes nos nouvelles sur canada-info.ca, canada-info.ca. Les reportages en deux langues de nos journalistes y sont archivés au quotidien. Ils nous permettent de découvrir le Canada dans son entier et d'avoir un autre point de vue sur nos communautés locales. Retrouvez-nous aussi sur nos médias sociaux et notamment sur Twitter, @CanadaLGI. Ici Boris Chassaigne, merci d'avoir été avec nous, à la semaine prochaine. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLGI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.